VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre bulletin de nouvelles. La Cour constitutionnelle du Zimbabwe a commencé à examiner aujourd'hui une requête de l'opposition visant à annuler l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa pour cause de fraude électorale. L'audience de ce mercredi est diffusée en direct par la télévision publique zimbabwéenne et les 9 juges de la plus haute instance juridique du pays doivent rendre leur verdict d'ici à vendredi. La requête déposée par le parti MDC a conduit au report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa, initialement prévue le 12 août. Mais si la Cour constitutionnelle confirme sa victoire, l'investiture doit se tenir dans les 48 heures qui suivent cette décision. RDC, des manifestations pacifiques annoncées à partir du lundi 3 septembre pour sauver le processus électoral dans le pays. L'appel a été lancé par le mouvement citoyen Lucha, lutte pour le changement. Une annonce faite mardi dans 14 villes du pays par ces jeunes militants pro-démocratie qui résument leurs revendications en 7 exigences. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Non satisfaite des avancées que connaît le processus électoral et du faible taux d'application des mesures de décrispation politique que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre, la Lucha, lutte pour les changements, annonce une série de manifestations à partir du lundi 3 septembre courant. L'objectif, selon ces jeunes, est d'obtenir des autorités du pays la prise en compte et l'application de leurs revendications qu'ils résument en 7 exigences pour sauver le processus électoral. Il s'agit notamment de l'abandon de la machine à voter, de la libération des prisonniers politiques et d'opinion et de l'espace politique congolais, de la cessation de ce qu'ils qualifient de poursuites judiciaires motivées contre certains opposants pour un processus électoral plus inclusif, de la fiabilisation du fichier électoral, de la levée de l'interdiction de manifester et de la réouverture de certains médias privés fermés depuis plus de 2 ans maintenant. Au cours de ce point de presse organisé mardi simultanément dans 14 villes de la RDC, la Lucha appelle à des manifestations pacifiques pour faire entendre sa voix. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Élection au Cameroun maintenant, dissension au sein de l'opposition sur le choix d'un candidat unique pour la présidentielle du 7 octobre. Les tractations entre les 8 opposants aspirant à la magistrature suprême achoppent surtout sur les critères de désignation de l'un d'entre eux. D'ores et déjà, 2 candidats ont exclu toute idée de participer à une coalition de l'opposition. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap.
L'âge du candidat unique de l'opposition est l'un des points de dissension. Professeur Nkumvondo est intransigeant sur ce point. En sa qualité de président du parti Univers, qui a investi l'un des plus jeunes candidats à l'élection présidentielle.
Pourquoi voulez-vous que moi, avec le parti Univers, nous qui voulons l'arrivée aux affaires d'une nouvelle génération, que j'aille me mettre avec Maurice Kamto qui a 105 ans ou 106 ans? Non, je ne suis pas sûr que je partagerai l'idée de cette coalition.
3 des 8 candidats de l'opposition ont moins de 40 ans. Il s'agit de Cabral Libi, du pasteur Ndifo Afangui Franklin et Serge Espoir Matomba. Joshua aussi, le candidat du principal parti de l'opposition, est quant à lui âgé de 49 ans. Et parmi la vieille garde de l'opposition, il y a Garga Haman Hadi, 74 ans. Il est contre une coalition de l'opposition et ironise sur le critère de l'âge.
Si c'est l'âge qui fait fonction de compétence, qu'on aille dans les maternités prendre les bébés, ils seront alors plus compétents. Le président de la République, c'est d'abord le cerveau, la conscience et le sens du bien public et de l'honneur.
Au-delà de l'âge du porte-fanion de l'opposition, certains candidats disent être sous pression de leurs sympathisants sur le plan financier. À l'instar de Cabral Libi, qui a pu réunir le montant de sa caution, 30 millions de francs CFA, grâce à une levée de fonds populaires.
Il y a des contributeurs qui me disaient clairement, on te donne notre argent. Si tu coalises avec quelqu'un, on n'est plus là. Mais il y en a aussi qui te disent, je vous donne mon argent pour que vous soyez candidat, mais si vous avez possibilité de renoncer à votre candidature pour un autre candidat dans le cadre d'une coalition, je ne vous en voudrais pas. Et vous devez arbitrer, vous devez gérer tout ça.
Dans un tel contexte, rares sont les habitants de Yaoundé qui croient encore à une candidature unique de l'opposition.
Entre les leaders des partis d'opposition, il y a un problème d'ego.
Avant même que le corps électoral ne soit convoqué, il y avait un qui s'était déjà déclaré tireur de pénalty. Ça veut dire qu'il ne donnait plus la possibilité à qui que ce soit de pouvoir tirer ce pénalty, même s'il était plus adroit que lui.
Toute personne qui aimerait s'allier à ce qui est candidature unique va vouloir que ce soit lui qui soit le candidat de cette union-là. Forcément, il n'y aura pas de candidature unique.
Pour l'essayiste camerounais André-Julien Mbem, l'opposition camerounaise semble faire fausse route sur les critères de choix de son représentant à l'élection présidentielle.
La candidature unique, ce n'est pas un choix physique, ce n'est pas un choix cosmétique, c'est un choix idéologique, conceptuel, c'est même un choix intellectuel par rapport aux grands enjeux de l'avenir du pays. On devrait plutôt parler du programme unique et alternatif d'une opposition qui voudrait challenger le président Biya.
La dernière tentative d'une coalition de l'opposition s'était achevée en queue de poisson en 2004. John Frundi, président du SDF, avait claqué la porte à la grande surprise de tous. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute.
Élections en Afrique, toujours à Madagascar. La Haute Cour constitutionnelle fait état d'au moins 46 candidatures pour la présidentielle qui se tiendra à la fin de l'année.
De VOA Afrique.
Les trois derniers présidents du pays sont sur les rangs dans ces élections à Madagascar. Plus de détails avec Irénée Herman Ungbo.
La plus haute instance judiciaire de la Grande Île annoncera d'ici à dimanche la liste officielle des candidats autorisés à participer au scrutin des 7 novembre et 19 décembre prochains. Parmi les nombreux postulants, il y a l'actuel président R. Rajaomanampiam, élu il y a 5 ans, et ses deux prédécesseurs, Ange Razoel et Mac Ravalomanan. Ces deux frères ennemis passés à l'opposition avaient été interdits de participer au dernier scrutin suite à un accord pour mettre fin aux crises à répétition dans ce pays pauvre de l'océan Indien. Monsieur Ravalomanan avait été contraint en 2009 de quitter le pouvoir après un coup de force de l'armée qui avait alors placé son jeune rival Radjoel à la tête du pays. Il y a aussi d'anciens premiers ministres et même l'ex-président Didier Ratsirak à 81 ans qui avait dirigé le pays d'une main de fer de 1975 à 1993.
Piraterie maritime en Afrique maintenant, un tanker de 121 mètres de long ayant à son bord 17 marins géorgiens et 2 russes est porté disparu depuis une semaine dans le golfe de Guinée au large du Gabon. Les précisions de Morgane Guiriec.
Le Pantelena, battant pavillon panaméen, a disparu des écrans depuis le 14 août et se situait entre les eaux du Gabon et de Sao Tomé et Principe. Le ministère géorgien des Affaires étrangères précise qu'il y avait 17 marins géorgiens et 2 Russes à bord. Les recherches pour les retrouver se poursuivent. Le golfe de Guinée, allant du Sénégal à l'Angola, sur plus de 5700 km de côte, est devenu l'épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Selon le Bureau maritime international, 107 incidents ont été signalés au cours des 6 premiers mois de 2018. Face à toutes ces menaces et la pêche illicite, les marines d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont renforcé leur coopération avec la signature du processus de Yaoundé en 2013 qui harmonise les pratiques dans le golfe de Guinée.
Et on termine avec l'actualité aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a essuyé mardi un double coup judiciaire avec son ancien avocat impliqué devant un juge et son ex-chef de campagne reconnu coupable à son procès, Jean-Roger Bion.
Deux juridictions différentes pour deux affaires distinctes, mais qui menacent d'atteindre directement le locataire de la Maison-Blanche. À New York, Michael Cohen, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable de 8 chefs d'accusation pour fraude fiscale et bancaire et pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Il a reconnu avoir versé 130 000 et 150 000 dollars à deux femmes affirmant avoir eu une liaison avec le milliardaire républicain en échange de leur silence et ce à la demande du candidat. Objectif, éviter l'ébruitement d'informations qui auraient porté préjudice au candidat. Cet aveu est une réelle bombe pour celui qui a finalement remporté la présidentielle de 2016, car il sous-entend qu'il pourrait avoir lui-même commis un délit. Quasiment au même moment, dans un parallélisme judiciaire saisissant, le tribunal d'Alexandria près de Washington a reconnu Paul Manafort, un ancien directeur de campagne de Donald Trump, coupable de fraude bancaire et fiscale. Le jury n'a prononcé qu'un verdict partiel, ne parvenant pas à s'accorder sur 10 des 18 chefs d'accusation pesant contre l'ancien sulfureux lobbyiste. Donald Trump a tenu hier à rappeler que cette décision judiciaire n'avait en soi rien à voir avec une éventuelle collusion qu'il nie farouchement depuis des mois, dénonçant une chasse aux sorcières.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.